Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, ce sont des poèmes qui sont au sommaire de l'émission. Des poèmes écrits par un jeune garçon de 13 ans alors qu'il était prisonnier au camp de Bergen-Belsen. Des poèmes rédigés par Uri Enlev sur les planchettes arrachées au chalet du camp et recopiés au propre sur un précieux carnet. Un carnet rouge que l'auteur a su préserver durant cette captivité et qu'il a su garder toute sa vie, avant enfin de publier aujourd'hui ses poèmes. Des textes qui montrent que la poésie peut parfois être une arme de résistance et de survie. L'écriture pour Uri Enlev a en tout cas été le lien qui l'a maintenu en contact avec l'enfant qu'il a été, une écriture qu'il a d'ailleurs largement dédiée à la jeunesse. Avec nous pour en parler, donc Uri Enlev, grand auteur de jeunesse et dont les premiers poèmes sont publiés aux éditions de l'Éclat, pour nous aider lors de cet entretien, sa traductrice Sabine Huyn. Uri Enlev, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez mis tant de temps à publier ces poèmes de jeunesse, vos premiers poèmes ?
Parce que je ne les prenais pas particulièrement au sérieux.
Et alors qu'est-ce qui vous a poussé finalement à changer d'avis ? Ou est-ce que quelqu'un vous a demandé de prendre ces poèmes au sérieux ? Comment ça s'est passé, Uri Enlev ?
J'ai un livre autobiographique qui s'appelle Noëlla Oferet, que j'ai écrit en 1923.
J'ai un livre autobiographique qui est intitulé Les soldats de plomb et que j'ai écrit quand j'avais 23 ans.
Il l'a tourgam le tsorfatit, avec le tourgam le germanit, l'autre, comme ça faut.
Il n'a pas encore été traduit vers le français, mais il est traduit vers l'allemand et d'autres langues.
כשנפתח המוזיאון החדש בברגן-בלזן, במחנה ברגן-בלזן, לפני כמה שנים, הספר הגיע אליהם.
Lorsque le musée de Bergen-Belsen a été ouvert en Allemagne il y a quelques années, le livre Les soldats de plomb leur est arrivé, le livre en allemand. Dans ce livre, quelqu'un a lu que j'avais écrit des poèmes à Bergen-Belsen. Donc cette personne m'a demandé si j'avais toujours ces poèmes. J'ai répondu que oui. Donc ils ont demandé la permission de les publier en Allemagne. Que je leur ai donné. Et ensuite ils ont été publiés à Yad Vashem, par Yad Vashem à Jérusalem.
ואז יצא ספר ב... ביד ושם, מצד אחד כתוב על הקריכה, כתב יורק אורוובסקי, בפולנית כתוב.
Donc, donc le livre publié par Yad Vashem a deux couvertures, en fait, puisque c'est une édition bilingue polonais-hébreu. Donc, d'un côté, il est écrit que les poèmes ont été écrits par Jurek Orlovsky. Et de l'autre côté, il est écrit traduit par Uri Enlev.
Oui, donc c'est intéressant parce que ça raconte aussi ce parcours qui a été celui de certains enfants qui ont été déportés, puis qui ensuite sont allés en Israël et qui ont changé d'identité à ce moment-là. On peut penser à Aaron Appelfeld, effectivement, qui lui aussi a eu ce parcours assez particulier où on laisse en quelque sorte une ancienne identité derrière soi pour renaître, comme ça a été le cas pour certains.
Quand je suis arrivée au kibbutz, j'avais 14 ans et mon petit frère en avait 12. Et l'une des gardiennes du kibbutz, enfin gardienne d'enfants du kibbutz, m'a demandé mon nom. Je lui ai dit Jurek. Elle a dit ah très bien, ça ressemble à Uri. Et ensuite elle a demandé à mon frère quel était son nom. Il a dit Kajik. Et donc ça lui a pris quelques minutes, et puis elle a dit, bon, d'accord, alors toi, tu vas devenir Igal.
Et alors,
après, mon pauvre petit frère, pendant toute une semaine, il me cherchait de partout dans le kibbutz. Et de loin, il me criait « Jurek, Jurek, j'ai oublié mon nom !»
Oui, donc ça montre bien que ça a été quelque chose de très compliqué pour vous, enfants, à l'époque, de changer de pays, puis changer d'identité, changer de culture. Il a fallu tout réapprendre, en quelque sorte.
Lise le Yamsubar.
C'était pas compliqué pour lui.
Yeseze Moussaka Zebarets et Shoka Tarbout.
Donc, il dit, voilà, il y a l'expression « le choc culturel ».
לא קרה לי שום דבר כזה, אני מאוד שמחתי לבוא למקום חדש, הרפתקה חדשה.
Et il n'a jamais souffert de choc culturel, il a été très heureux d'aller dans un nouveau pays et de vivre de nouvelles aventures.
גם שמחתי להיפטר מהדודה שלי, שמאוד אהבתי אותה וגם הייתי קשור אליה, מפני שהיא הצילה אותנו בזמן המלחמה הרבה פעמים.
Et puis il était aussi content de prendre un peu de distance avec sa tante, même s'il l'aimait beaucoup et qu'elle leur a sauvé la vie plus d'une fois. Mais bon, il était content de s'en séparer un petit peu parce que il était adolescent, voilà, il grandissait et elle le traitait toujours en petit enfant et elle lui disait toujours quoi faire et porte les valises et fait ceci et fait cela. Je lui ai demandé à ma tante qu'est-ce que c'est que cette Palestine. Alors elle m'a répondu, ne t'inquiète pas, là-bas il y a des écoles et puis tu recevras à manger et des vêtements neufs. Sa tante lui a dit, laisse-moi les vêtements neufs que tu as reçus en arrivant en Israël.
מפני שאם תבואו לשם עם בגדים חדשים טובים, אז הם לא ייתנו לכם אולי את החדשים שלהם.
Parce que lorsque tu vas arriver, je pense au kibbutz avec des vêtements neufs, ils vont pas t'en donner d'autres.
ואז את האלה אני אמכור פה.
Et donc ceux que tu as maintenant, je vais les vendre.
Donc une tente pragmatique. Est-ce que vous pouvez nous dire, Uri Orlev, justement, ce parcours qui vous a mené, donc votre tante et votre frère et vous, à Bergen-Belsen ?
C'est une histoire très compliquée, très longue.
Vous racontez dans ce recueil de poèmes, Uri Orlev, qu'effectivement, au départ, les premiers temps où vous êtes à Bergen-Belsen, vous avez un semblant de vie, alors pas normale bien sûr, mais de vie un petit peu protégée. Il y a un petit peu d'école, il y a à peu près de la nourriture, et puis c'est là que vous arrivez à obtenir ce carnet, grâce à votre tante.
Donc c'est ma tante qui m'a acheté ce carnet et pendant les trois premiers mois, c'est vrai que les Allemands se sont conduits avec nous comme si nous étions des étrangers, en fait, des gens qui venaient d'un autre pays.
Il y a un bétsefer, c'est-à-dire pas un binyan bétsefer, mais c'est un kaitz, c'est un bachoutz, l'amadnou, et c'est le kamamorim.
Donc oui, effectivement, il y avait une école, il n'y avait pas de bâtiment, mais bon, on faisait école dehors, il y avait quelques enseignants. Et les Allemands ont amené la cantine allemande. Et c'est là-bas que ma tante m'a acheté ce carnet pour l'école. Et de l'encre.
והיה לי את נובע של האיש שחיים דודה שלי אז נתן לי את שלו.
Et j'avais un silo à plumes que m'avait donné l'homme qui allait devenir le compagnon de ma tante.
אבל הפנקס הזה זה היה כל כך יקר מבחינה הזאת שלא היו ניירות בכלל ולא מגברות.
Mais ce petit carnet était tellement cher dans tous les sens du terme puisqu'il n'y avait pas de papier à l'époque.
אז לא השתמשתי בו לבית ספר.
Donc je ne l'ai pas utilisé pour l'école, pour faire mes devoirs. Et même les autres enfants, même si on leur avait acheté du papier ou des carnets, ils ne s'en servaient pas. Donc les chalis, nos chalis avaient deux étages.
והמזרון היה מונח על קרשים כאלה, אחד צמוד לשני, אבל לא מודבק, אלא פשוט מונח.
Et le matelas était posé sur des planches qui étaient elles-mêmes posées côte à côte, qui n'étaient pas fixées, mais qui étaient juste posées côte à côte.
כל אחד הוציא קרש אחד.
Donc chacun d'entre nous sortait une planche de dessous le matelas et nous écrivions sur cette planche au crayon à papier.
Et donc c'est les poèmes, vous les avez donc écrits sur ces planchettes et puis ensuite vous les avez recopiés dans ce carnet. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à écrire des poèmes dans ce camp de Bergen-Belsen, Uri Orlev?
J'ai commencé à lire à un très jeune âge. Et j'adorais lire les poètes polonais. Donc les poètes pour adultes, hein.
וחשבתי שאני אהיה משורר, שאני אהיה גדול.
Et je pensais que je serais poète quand je serais grand.
ואחרי שנה של ברגן-בלזן, זה כבר היו תנאים מאוד קשים.
Et après avoir passé un an à Bergen-Belsen, et là, les conditions de vie étaient vraiment terribles.
וכל ההתרשמויות שלי ממה שקורה סביבי.
Et avec tout ce que je ressentais en voyant tout ce qui se passait autour de moi.
כנראה שהתעורר בי הצורך לבטא את זה. לא כנראה, בטוח.
J'ai apparemment ressenti le besoin d'extraire tout cela de moi.
ואז התחלתי לכתוב שירים.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des poèmes.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, Uri Orlev, comment vous écriviez, c'est-à-dire, est-ce que c'était en fonction de scènes que vous voyez dans le ghetto, est-ce que, dans le ghetto, puisqu'il y a plusieurs poèmes qui parlent du ghetto, ou est-ce que c'était ce que vous viviez dans le camp qui vous inspirait? Est-ce que c'était aussi le besoin de se soulager, d'essayer de se vider un peu des images terribles que vous aviez devant les yeux, ou des souvenirs terribles que vous aviez déjà pour un enfant de 13 ans? Quelle était la fonction et quel était ce qui suscitait cette poésie?
J'ai vu tout ce qui s'était passé au ghetto. Et j'étais au courant de la grande guerre, comme il dit, qui ravageait le monde.
Et כשהיינו במחנה, אז כל הדברים האלה יצאו בתוך השירים.
Et lorsque nous étions au camp, toutes ces choses sont sorties, se sont retrouvées dans les poèmes.
Oui, parce qu'il y a effectivement des poèmes à la fois très forts, des poèmes très durs, très tragiques. Et puis aussi, vous arrivez à instiller un peu de tragicomédie dans certains de ces poèmes, notamment dans le poème « Mes voisins », où vous racontez à la fois les choses et les personnes qui vous entourent, qui font votre quotidien, et vous avez un regard très ironique déjà pour un enfant sur votre quotidien.
אני ידעתי שאנשים מבוגרים הם אנשים מחונכים, מתנהגים יפה, סבלנים, ופתאום זה היה הכל לא נכון.
Donc il dit effectivement, il y a même un poème qui s'appelle Tragicomédie du camp, et il dit en fait pour lui les adultes étaient des personnes qui se conduisaient bien, qui étaient gentilles et polies, et tout à coup ce n'était plus du tout le cas.
כל המדת הפנים הזאת של המשפחות הבורגניות שהכרתי כשהייתי ילד, זה היה רק המדת פנים, מסתבר.
Et donc, tout ce que je croyais sur ces gens quand j'étais enfant, apparemment ce n'était qu'une apparence.
אמנם הם המשיכו להגיד לשני, monsieur, madame, mademoiselle.
Bien qu'ils s'adressaient par des monsieur, madame et mademoiselle.
אבל מאחורי זה לא היה כלום.
Mais en fait, il n'y avait rien derrière tout cela, en dessous de tout cela. Et c'est pour ça, moi je trouvais ça drôle.
Il y a aussi certains poèmes, Uri Orlev, où vous, à la fois il y a toujours cet espoir d'un avenir meilleur, une croyance dans les forces naturelles, dans la permanence des choses. Et en même temps, vous sentez que vous êtes proche de laisser la noirceur prendre la place dans votre cœur. Notamment, vous évoquez la mort de votre mère. Et on sent qu'il y a presque un combat intérieur entre essayer de garder un espoir et ce, ou se laisser envahir par la noirceur du monde.
C'est une question des enfants qui se développent, pas dans la guerre, mais dans les vies normales.
Donc il dit que ça, en fait, c'est... d'être entre les deux comme ça, ça ne concerne pas seulement les enfants qui se trouvent en situation de guerre, ça concerne tous les adolescents, en fait. Ça dépend dans quelle famille vous avez grandi.
Si c'est une famille qui essaie de vous éduquer à être moussari et mitchashev, ou c'est une famille de poshim ou ganavim ou des choses comme ça.
Donc, soit vous avez reçu une éducation, une bonne éducation, ou soit vous venez d'une famille de criminels, de voleurs, etc.
Ayom zem samim ve kol mine gnevot, kol mine batei soar.
Donc aujourd'hui, vous lutteriez entre les drogues et ces choses-là.
Ah, ze haya alcohol.
À l'époque, il y avait aussi l'alcool. En Pologne, tout particulièrement.
המשפחה שלי ניסתה לחנך אותי כאילו שהעולם הוא טוב ומתחשב ומנומס.
Et l'éducation que j'ai reçue dans ma famille m'a fait croire que le monde était bon et que tout le monde était bon et poli et solidaire.
וזה היה מאוד מצחיק לראות שזה בכלל לא ככה.
C'était vraiment drôle de voir que la réalité était tout à fait différente.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Uri Orlev, comment finalement, après ce moment que vous avez vécu à Bergen-Belsen, vous êtes donc arrivé en Israël, et pourquoi finalement vous avez décidé d'écrire, comment est venue l'écriture, puisque vous êtes effectivement d'une certaine manière devenu poète, et surtout, est-ce que le fait que vous écrivez beaucoup de romans pour la jeunesse, c'est en quelque sorte une fidélité à l'enfant que vous avez été, à l'enfance que vous avez vécue, qui était si dure, si particulière ?
שירים, כתבתי רק 15 שירים, לא כתבתי כל הזמן שירים.
Je n'ai pas toujours écrit des poèmes.
כשבאתי לארץ ישראל, אז התחלתי ללמוד בבית ספר, בכיתה ח', זה הכיתה השמינית לפי הסדר הכיתות.
Donc lorsque je suis arrivé en Israël, il dit j'ai commencé l'école et c'était la classe Chet, donc je sais pas, et c'est peut-être la quatrième ou cinquième pour les Français.
Et
j'étais dans cette école. Ensuite, je suis allée à l'armée.
ורק אחר כך כתבתי את הספר הראשון שלי למבוגרים.
Et c'est seulement après l'armée que j'ai écrit mon premier livre pour les adultes.
ואחר כך כתבתי את הספר השני שלי למבוגרים.
Et ensuite j'ai écrit un second livre pour adultes.
וקובץ סיפורים למבוגרים.
Et ensuite un livre de récits pour adultes.
ואחר כך פנו אליי, הגשתי איזה תסקית, רדיו דרמה, לתחרות.
Ensuite, j'ai envoyé une pièce pour la radio. C'était pour un concours.
Concours לתוכניות לילדים ולנוער.
C'était un concours pour une émission pour enfants et adolescents.
זכיתי בפרס ראשון.
Et j'ai reçu le premier prix. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des choses pour enfants et adolescents.
Et
depuis, je n'ai pas arrêté.
Et pour finir, justement, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous écrivez pour la jeunesse ? Est-ce que c'est parce que vous voulez qu'il y ait une histoire qui se perpétue ? Ou est-ce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une espèce de fidélité à l'enfance que vous avez vécue ?
אני לא יודע בדיוק, אני רק יודע שאני כותב, מעדיף לכתוב לילדים ולנוער?
Je ne sais pas exactement, mais je sais que effectivement, je préfère écrire pour les enfants et les adolescents.
Mais parce que, alors, il ne faut pas écrire dans les livres des enfants. Il y a beaucoup de choses, le nicour, le nicour, le nicour, le chosser tikva, le yéhouch, tous ces choses.
Parce que quand on écrit pour les enfants et les adolescents, contrairement aux livres pour adultes qui sont pleins de tristesse, de désespoir, de misère et tout ça.
Les histoires des enfants, c'est comme la jeunesse, il y a toujours de l'espoir.
Dans les histoires pour enfants, c'est comme dans l'enfance, il y a toujours de l'espoir.
וזה לכתוב באמת בלי שיש תקווה שעוד הכל יהיה אחרת וגם יש ציפייה של איך זה יהיה בעתיד שיהיה בטח דברים טובים ואני אעשה דברים כאלה וכאלה אני אהיה גיבור
Et quand quand il y a de l'espoir tout est différent on voit qu'il y a un futur et puis je peux voir voilà ce que je vais faire après et que je suis un héros.
כמו הספר של לידיה מלכת ארץ ישראל בכל אופן אני חשבה שתהיה מלכה ויכולתי לכתוב על זה באמת ברצינות שהיא תהיה מלכה אני אהיה מלכה
Et donc, par exemple, dans un livre que j'ai écrit qui n'est pas sorti en France, c'est Lydia, la reine de Palestine. J'ai décidé que voilà qu'elle serait reine et elle est devenue reine.
Et la tochnit le gamri brura, mipne shamelech shel Romania yaz yelet katan asafti bulim azani zocheret zeh shu nira gam.
La reine de Palestine venait de Roumanie et. Et le roi de Roumanie alors était enfant et je me souviens je l'avais vu sur des timbres je collectionnais des timbres à l'époque.
Et Lydia
était sûre qu'elle épouserait ce prince de Roumanie et qu'ils iraient en Israël ensemble et qu'elle serait reine d'Israël.
Merci encore, Uri Orlev. Je rappelle que vos poèmes écrits à Bergen-Belsen sont publiés aux éditions de l'Éclat et qu'on peut lire ou relire facilement vos romans jeunesse, Une île rue des oiseaux, Le chant des baleines ou Cours sans te retourner. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.